Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Muriel van der Meulen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Are the Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bienvenue tout le monde sur ce podcast Un train peut en cacher un autre. Aujourd'hui, un épisode sur la relation entre le responsable marketing côté client et son agence de content marketing. Vaste sujet que nous essaierons de traiter en une demi-heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir au micro pour en parler Jérémy Cormand, professionnel du marketing avec près de 15 ans d'expérience dans les domaines du numérique, du marketing, des ventes. Il a occupé le poste de directeur marketing chez Octelia. Au passage, c'était d'ailleurs un de nos clients, Octelia, place de marché de vente aux enchères dédiée aux équipements industriels. Il a été d'ailleurs le premier employé de cette société. Fondateur et stratège marketing chez Marketing Makers, sa société, une entreprise impliquée à la fois dans des opérations et les niveaux stratégiques du marketing. Et puis également, on connaît tous sur le marché belge le fameux Digital Marketing Canvas de Jérémy, qu'il nous a fait le plaisir d'ailleurs de transposer sur ChatGPT. Vous trouverez en bit.ly, sous la vidéo de notre podcast, le lien pour accéder à ce ChatGPT. Bonjour Jérémy, enchanté.
Bonjour Muriel, merci pour cette introduction et très belle recherche en tout cas.
Merci à toi. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ?
Ah non, je trouve que c'était vachement complet et il y aura peut-être des choses que je vais rajouter au fil de la discussion, en effet.
D'accord, très bien, ben, merci. Alors quand on se pose la question de la relation entre le responsable marketing côté client et l'agence de content marketing, parce que j'ai bien dit non pas agence de marketing mais content marketing, on se pose d'abord la question au fond, mais dans toute stratégie de content marketing, quel rôle va endosser le responsable marketing de l'entreprise, Jérémy ?
Pour moi, le rôle premier, ça va être de donner un objectif. Parce qu'il n'y a pas de stratégie sans objectif. Hein. Donc, si vous partez en vacances demain, il faut au minimum connaître la destination, sinon ça risque de prendre du temps. Après, ça peut être aussi un choix fondamental de dire je vais vagabonder, pourquoi pas, et aller énormément dans la découverte. Mais la plupart du temps, en effet, on va essayer de poser un objectif. Et pour moi, c'est le rôle du responsable marketing de définir un objectif et de cadrer autour de cet objectif-là, ouais.
Est-ce que l'agence de content marketing elle-même a une valeur ajoutée, peut-être force de proposition dans ses objectifs, puisque elle, le contenu, c'est sa matière brute, ce qu'elle va utiliser et ce avec quoi elle jongle au quotidien. Est-ce qu'il y a un rôle éducatif, pédagogique envers le responsable marketing de l'entreprise en termes d'objectifs ?
Oui, absolument. C'est un des rôles fondamentaux pour moi d'une agence de content ou en tout cas de personnes qui vont s'occuper de la création de contenu. C'était d'abord de comprendre, on va dire, le client, qui il est, d'où il vient, qui sont ses clients. Mais avant tout, c'est clair que pour moi, un créateur de contenu doit essayer un petit peu de comprendre l'ADN du client et quelles sont les histoires qu'il va pouvoir raconter. Parce que fondamentalement, on peut aller dans toutes les directions, c'est vrai, mais l'idée, c'est de trouver la ligne qui va, on va dire, rejoindre tous les points entre le passé, le présent et le futur, quoi. Il faut une cohérence pour moi et je pense qu'en effet, le créateur de contenu est là pour essayer de tirer un petit peu les bonnes ficelles chez le client et de comprendre sur quoi il peut jouer. Parce que oui, ce créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va raconter des histoires, qui va aider le client à raconter la plus belle histoire possible vis-à-vis d'un marché, vis-à-vis des concurrents et vis-à-vis de vers où le client a envie d'aller aussi. Quelles sont ses forces et faiblesses, tout ça. Et le rôle du content, ça va être aussi son petit côté créatif, évidemment.
D'accord, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Et à ce propos, d'ailleurs, comment est-ce que le responsable marketing devrait-il ou s'organise-t-il pour piloter un projet de content marketing, précisément, pour baliser ces lignes directrices que tu évoques ?
Donc, quel est le rôle du marketeur client pour baliser un petit peu le
cas ? En termes de pilotage, effectivement.
Ouais. Bref, en vrai, ça va être un petit peu l'alchimie qui va se créer entre, on va dire, le client et le prestataire de service. Elle va varier hein, en fonction de l'un ou de l'autre. Mais je pense que le responsable, ouais, on peut mettre le curseur où on veut. On peut mettre le curseur où on veut, mais j'aurais tendance à dire que, en effet, toujours se reposer sur les fondamentaux, quoi. Et pour moi, les fondamentaux, ça reste toujours d'abord le client. Le client, ensuite, voir la plus-value qu'a apporté la marque sur un marché. Bien connaître le marché, parce que quand on connaît bien le marché, ben, on peut commencer à discuter de où est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça. Et ensuite, en effet, c'est quand on a ces éléments-là, on peut en effet construire, je pense, une marque et construire une marque, raconter une histoire, créer du content autour de ça. C'est d'abord jouer sur les fondamentaux avant de en fait le truc c'est je pense que le responsable marketing va être garant de ces fondamentaux là où parfois et ça peut même être l'inverse, tu vas peut-être Muriel me dire l'inverse effectivement que tu as tendance toi à aller sur les fondamentaux là où le client veut parler d'algorithme et de tactique. Mais l'inverse peut être vrai aussi. Donc,
c'est vrai. On a souvent les deux situations, effectivement. Oui.
Donc oui, le prestataire pourrait parfois être très très fort sur du tactique et du coup le client va devoir compenser avec de la stratégie sur des fondamentaux. Et puis après, l'inverse est vrai aussi, quoi. Donc, il faut un petit peu équilibrer tout ça. Et je pense qu'en effet, les prestataires des services qui ont de l'expérience, ils vont pouvoir jouer clairement avec ça. Quand ils ont un client qui est trop sur la tactique, mais que les fondamentaux sont pas encore en place, il va pouvoir compenser ça. Et idem, un client qui est pas à jour, on va dire, sur les dernières technologies, sur les dernières plateformes et les dernières tendances, va devoir avoir besoin d'un prestataire de service qui est à jour sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'on peut faire avec tout ça et quelle est la vision de tout ça. Je dirais qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est deux cas assez différents et voilà, il faut pouvoir jongler.
Oui, c'est un peu en fonction des personnalités des deux parties, c'est-à-dire l'entreprise d'un côté, l'agence ou le prestataire de l'autre, et puis de trouver effectivement comment trouver un modus operandi. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis entre cette dichotomie entre stratégie et tactique, parce que ça me fait penser qu'en termes d'objectifs, que tu évoquais tout à l'heure, c'est un peu ce combat aujourd'hui aussi, tu sais, entre d'un côté performance et de l'autre côté robustesse. C'est-à-dire, c'est un débat que j'affectionne pas mal et que je partage sur LinkedIn où tu dis, il y a des clients qui sont, tu sais, très effectivement épris de performance. Ils seront plutôt du côté de l'algorithme, tu vois, du côté du chiffre de conversion, etc. Et puis, t'en as d'autres qui, surtout sur du brand content, sont de plus en plus quand même sensibles à la robustesse, c'est-à-dire le slow content, l'image de marque, l'ancrage, la narration, le storytelling. Dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça dépend, je pense, tant que l'affinité va aussi peut-être naître de la complémentarité entre le client, le responsable marketing et son prestataire, du coup, en fait. Mm-hmm. C'est ce que tu dis un peu.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, c'est toujours bien que voilà, le prestataire est là pour accompagner le client et de proposer une méthodologie, aussi une méthodologie de travail. Et je pense que beaucoup de clients apprécient ça, apprécient le fait de se faire encadrer, d'avoir quelque chose de clair avec
délivrable,
absolument quelque chose de concret. Donc, ouais, c'est ça.
On a tendance à dire du côté de la stratégie éditoriale, donc c'est pas juste du content marketing, ça peut être de l'ingénierie éditoriale quand on produit des fiches produits à gogo, qui a toujours trois socles sur une stratégie de contenu. Ça va être les instances, donc les personnes, ceux qui valident aussi, C'est-à-dire, oui, je donne mon go, non, je donne pas mon go, j'aime pas le ton, j'aime pas les mots. Donc, c'est vraiment les instances, les personnes impliquées. On va avoir ben, les contenus, qu'est-ce qu'on va faire, la vidéo, de l'infographie, etc. Et puis, on va avoir également ben, les outils. Alors, tu évoquais tout à l'heure, enfin, j'évoquais tout à l'heure ton Digital Marketing Canvas. Est-ce que ce Digital Marketing Canvas, il a un rôle dans le content marketing, dans la relation pour piloter justement entre le responsable marketing et l'agence ou prestataire de content marketing?
Moi, j'aime bien voir les choses simplement en trois phases. Donc, en fait, tu as toujours une phase où tu vas générer des idées, une phase où tu vas prioriser, exécuter les idées et une phase où tu vas analyser un petit peu le résultat. Le Digital Marketing Canva intervient surtout sur la génération d'idées, donc la première phase. Et en effet, c'est un bon outil pour des phases de kick-off. Ça peut être un outil qui va s'attarder au content, ça peut être un outil qui va s'attarder au growth marketing, ça peut être un outil qui va venir fédérer aussi des équipes. Je l'ai utilisé notamment dans des groupes, dans des grands groupes qui rachetaient des startups. Et l'idée, c'était un petit peu d'utiliser ce Canva comme un langage commun. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que en fait, les gens se comprennent, c'est juste qu'ils utilisent des mots différents pour s'exprimer. Et le Canva, il va être là pour être comme un langage commun, pour parler autour de différentes choses. Des choses que tout le monde n'a pas nécessairement l'habitude d'aborder. Donc, il faut le temps de poser les différentes briques et de cadrer un petit peu le projet. Mais en effet, c'est donc ce Canva qui rassemble deux choses fondamentales. D'une part, les fondamentaux du marketing. Donc, on va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, le client, la proposition de valeur, le marché, la marque, la vision et la mission. Et va rassembler un autre groupe d'éléments qui sont pour moi les fondamentaux du digital. Et ce que j'appelle les fondamentaux du digital, ça va être orienté sur le parcours client. Parce que ça, c'est quelque chose de commun, que ce soit d'ailleurs au niveau digital ou pas. On va avoir un parcours client et c'est sans doute la façon la plus claire que j'ai trouvée pour aborder le digital. Donc, on va avoir évidemment les canaux qui vont être plus orientés sur la notoriété, l'acquisition de trafic, l'activation. Donc l'activation, c'est ce fameux moment où la pièce tombe, où je comprends enfin la proposition de valeur. Quand on lance quelque chose de nouveau sur un marché, au début, on a une partie du marché qui ne comprend tout simplement pas la proposition de valeur jusqu'à un certain moment. Et donc, ça va être l'activation. À un moment donné, ils vont comprendre la proposition de valeur en faisant une action ou quelque chose sur le site, par exemple. Et puis après, la partie revenu, hein, comment est-ce que je monétise mon produit, mon service. Et enfin, on aura la rétention et la recommandation. Voilà, donc c'est 11 cases en tout. Et donc, on va rassembler différentes personnes autour de ce Canva. Et on va aller brainstormer avec des post-it. L'avantage des post-it, c'est qu'on peut les déplacer, on peut les supprimer, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est très concret. Il y a un côté team building aussi autour de ça. Et donc, voilà, oui, c'est comme ça que je m'en sers, même si à la genèse, c'est un outil que j'ai utilisé pour moi, dans mon coin, avant de le partager en ligne.
Mais donc, si je me figure bien et du souvenir que j'en ai dans sa version infographique, j'ai envie de dire, à chaque case, on peut imaginer que l'agence de content marketing va développer des contenus pour la rétention, pour l'activation, etc., etc. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé également pour la relation entre donc le responsable marketing client et puis l'agence ou prestataire en content marketing, ce fameux digital marketing canvas.
Oui, absolument. Hein. Donc, j'ai plusieurs retours de créateurs de contenu qui l'utilisent en effet pour mettre en place des stratégies de contenu. Et c'est un chouette outil de collaboration. Donc, c'est une base commune et en effet très utile dans la partie content marketing. Ça permet aussi de voir. Est-ce que je me suis posé toutes les bonnes questions qu'il fallait, et les bonnes questions pour remplir un brief. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai les fondamentaux? Évidemment, il y a moyen d'aller très loin dans le détail, mais au moins j'ai une vue d'ensemble sur les différentes cases. Ouais.
Oui, tout à fait. Et puis c'est cet aspect outil, comme je le disais, entre les d'un côté donc les instances, les contenus et puis les outils. Et à ce propos, est-ce que tu peux me citer un ou deux autres outils qui aident et qui favorisent ou facilitent justement cette relation entre le responsable marketing côté entreprise de nouveau et puis le content marketeer pour gouverner un projet de content marketing justement?
Oui, il y en a plein. D'abord, il y a le Digital Marketing Canva qui est disponible à la fois dans sa version, on va dire, poster qu'on imprime et on utilise des vrais post-it. Il y a la version digitalisée sur Figma et qui est disponible soit sur le site digitalmarketingcanva.co, soit dans la bibliothèque Canva. Et là, si vous allez sur la bibliothèque Figma, pardon.
D'accord.
Si vous allez sur la bibliothèque Figma, vous allez voir qu'il y a différents cas qui ont été traités, notamment Airbnb, notamment Lemonade. Et donc, ça donne des exemples concrets. Donc, il est utilisable en collaboration avec des équipes remotes où on déplace aussi des post-it, mais virtuels. Et puis, il y a maintenant aussi la version AI avec ChatGPT. Donc, on peut l'utiliser seul. En suivant et en donnant du feedback sur ChatGPT, hein, donc ça c'est possible aussi. On peut l'utiliser aussi à plusieurs comme ça. Donc ça c'est pour la partie digital marketing Canva, d'accord. Après les outils de collaboration, Basecamp est un très bon outil de collaboration pour suivre des projets, je trouve. Et puis selon les outils qui sont utilisés par le client, ça peut être du Slack. Ça peut bien fonctionner aussi avec
Trello.
Slack. Trello, oui, tout à fait. Trello, je dirais que voilà.
Et plus
Trello.
Dans des outils, si on était en plus dans des outils métiers. Donc moi, si tu veux, pour gouverner ou piloter le projet, tu vois, en termes de calendrier, de tâches, qui fait quoi, mais vraiment pour assurer la qualité, la performance des contenus, etc. Tu vois, qu'est-ce que tu citerais? Tu as évoqué le mot brief tout à l'heure, d'ailleurs. Chez nous, le brief contenu, le brief rédactionnel est, j'ai envie de dire, c'est le premier outil. Si tu rates cette marche-là, tu rates le projet, tu comprends, dans la rédaction. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense que c'est en effet… Ça dépend à quel point le client se connaît. Il y a des fois où je passe moins de temps sur cette phase-là parce que le client se connaît déjà super bien. C'est où il est, c'est où il veut aller, tout ça c'est clair, et il l'a déjà super bien transmis, et il n'y a pas beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais en effet, la plupart du temps, c'est là où le bât blesse en fait. Si on veut, en tant qu'agence, aller vite, et qu'on se rend compte qu'en fait le client n'est pas préparé à aller vite, c'est risqué. Donc, ouais, je trouve qu'un bon brief, c'est bien. Dans tous les cas, on ne peut jamais avoir un brief trop bien fait, hein, donc c'est bien de se préparer. Mais moi j'aime bien aussi passer rapidement entre les trois étapes que j'avais citées, qui sont donc le brief, l'exécution et l'analyse, parce que finalement on apprend aussi énormément en exécutant et en analysant derrière. Mais un bon brief c'est fondamental. Et là c'est vrai que donc en termes d'outils métiers. Faudrait exactement voir ce que tu entends par outil métier, mais il y a des outils d'analyse de données aussi.
La charte graphique, le référentiel SEO, le tableau des KPI, effectivement, le tableau des indicateurs de performance, et puis le parcours client, comme tu disais, le mappage des cibles, tu vois, des freins déclencheurs, tous ces outils, au fond, tous ces outils de documentation ou ces ressources qui vont permettre, tu vois, de baliser effectivement le travail et remplir les objectifs que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Moi, je démarre jamais l'exécution sans avoir des objectifs. Et je sais que certains prestataires fonctionnent sans objectifs parce que peut-être ça les rassure, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien mettre des objectifs parce que ça permet juste de voir, de chiffrer les objectifs. Enfin, quand je dis objectif, je parle de chiffrer les objectifs et ensuite quadriller ça avec des KPI, des indicateurs clés de performance. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on fournit directement un dashboard qui va permettre aux clients de voir où ils se trouvent à tout moment par rapport à cet objectif-là. Et je leur dis, peut-être qu'on se trompe totalement avec cet objectif de départ. Et en effet, la première itération, c'est souvent la plus mauvaise puisque c'est la première. Donc après, je sais pas, le mois suivant, on va évidemment revoir les objectifs, les augmenter, les descendre, et on sera sur quelque chose qui est sans doute plus adapté puisqu'on se connaît mieux, on connaît mieux le marché, etc. Mais je trouve que c'est fondamental, en tout cas de mon point de vue, de vraiment mettre en place ces objectifs-là, ces KPI-là, et d'être transparent sur le process. Parce que on apprend tous en fait. Dans ce cas-là, le client et l'agence apprennent beaucoup de choses parce qu'on mesure, on factualise et on rationalise vraiment tout ce qui est fait, quoi.
Je pense que ce serait malheureux de pas le faire sur un métamédia qui permet justement de tout mesurer. C'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est de se dire que, en toute humilité, juste pour avoir ces indicateurs, et c'est pas juste une question effectivement de performance quantitative, c'est aussi la performance qualitative. Ça permet, comme tu le dis, tout le monde apprend, côté client, côté agence, et puis ça permet de baliser. Et je pense que si on n'a pas ça, ben on est dans l'inertie totale en fait. On flotte, on est dans l'approximation et c'est pas le but. Tu parlais tout à l'heure, c'est intéressant. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste rajouter sur le fait que, attention, je ne suis pas en train de dire, parce que je pense qu'une partie de l'audience pourrait s'imaginer que je fais partie des gens qui jettent plein de chiffres et qu'après, on ne s'y retrouve plus. Non, au contraire, dès que je fournis cet outil-là, j'ai tendance à dire aux clients, attention, on peut faire ça, on peut ajouter telle métrique, c'est génial, c'est chouette. Mais on va pas le faire parce que c'est un moyen qui est parfois utilisé par le prestataire pour un peu noyer le poisson. Et j'ai pas envie que ce soit pas clair pour le client. J'ai vraiment envie que ce soit super simple à comprendre parce que derrière il y a le téléphone arabe, c'est-à-dire que mon contact chez le client, il va le raconter à quelqu'un d'autre, qui va le raconter lui-même peut-être à quelqu'un d'autre, et au final ça ressemblera plus à rien et tout le monde est perdu. Je pense que une bonne relation, c'est d'abord une relation sur la confiance, la transparence, et si ça c'est pas solide dès le départ, même si le prestataire, imaginons que je fasse du très mauvais travail, ça peut arriver, des fois je suis moins bon, mais au moins je veux être sûr que tout soit bien clair et ne pas super bien performer une fois, c'est pas grave, on s'excuse, on dit qu'on va faire mieux, on propose des solutions, c'est trop facile de vouloir surcharger en chiffres et après on sait plus où on s'y retrouve et plus personne n'y comprend rien, et donc on sait pas faire du bon travail dans ces conditions là donc attention, chiffres oui, mais pas venir trop vite avec trop de chiffres, y aller de façon très incrémentale en fonction du niveau où on se situe. Grosse mise en garde, et aussi c'est pas juste mettre un dashboard qu'on va aller voir les trois premières semaines et qu'on va arrêter ensuite, c'est aussi là le travail de la personne qui accompagne le client, de dynamiser ça. Et quelque part, moi, j'ai presque mon propre parcours client, de mon client aussi, où le but, c'est de l'engager dans la longueur sur les différentes métriques et comment les lire et que faire ensuite.
D'accord, très bien, très instructif. Une dernière chose pour clôturer peut-être, Jérémy, tu évoquais tout à l'heure, tu disais pour le client, s'il veut aller vite ou si l'agence veut accélérer le processus de production en content marketing, le brief peut aider. Ça m'a intéressé et interpellé ce que tu dis là parce que même si j'imagine qu'on s'entend sur la question de l'accélérer ou d'aller vite, ce qui est intéressant effectivement dans le brief, c'est qu'à partir du moment où ça modélise, ça veut dire qu'on va effectivement accélérer le projet, mais on va sans doute aussi, le fluidifier et permettre une sorte d'industrialisation, de factorisation du travail.
Exactement. En fait, oui, c'est les automatismes, ils seront acquis. Si plus on a un brief qui est clair, sur lequel tout le monde est aligné, on va pouvoir avancer plus vite. Hein, ça c'est sûr. On va pouvoir travailler plus facilement en équipe. On va moins chipoter sur quel mot je dois employer, quel langage, quel type de visuel. Non, mais c'est clair, ça permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite, de donner aussi un champ libre du coup à la créativité, hein, parce qu'on a tendance à penser que le brief c'est là pour interdire les choses. Il est aussi et surtout là pour libérer un certain nombre de choses. Il faut pas voir ça comme la police qui dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Il faut voir ça comme au contraire quelque chose qui permet de susciter la créativité, le dynamisme dans une équipe marketing, quoi.
Oui, tout à fait. Excellente conclusion. J'adore. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas contraignant, mais c'est que ça libère précisément aussi davantage la créativité. Magnifique. Une chose à rajouter, Jérémy ?
Ah ben non, bah écoute, j'étais très content d'être invité. Donc, merci beaucoup, Muriel. Au plaisir.
Avec grand plaisir.
De réitérer ça. Et j'espère que voilà, ça a été intéressant. Certains. Pour les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, moi j'ai apprécié l'échange, donc merci beaucoup.
Tout pareil, et je me demande si je n'aurai pas des demandes pour que tu présentes le Digital Marketing Canvas dans sa version ChatGPT, donc je pense qu'on se reverra très bientôt, Jérémy.
Avec grand plaisir, Muriel.
Super, un grand merci à toi. À bientôt, au revoir.
À bientôt, merci. Au revoir.